Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Guillaume Erner. Donc comme promis, le Royaume-Uni, les divisions du Parti travailliste, alors c'est un sujet évidemment très intéressant, même si les prochaines législatives ne sont prévues qu'en 2020. Notre invité Emmanuel Avril, qui est professeur à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Le Parti travailliste, on le sait, est à la peine, il est désuni. Son nouveau dirigeant, Jeremy Corbyn, est contesté de l'intérieur. Et tout cela dans le double contexte du référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, cette année sans doute. Et puis le contexte aussi de la poussée indépendantiste écossaise, poussée certes contenue par le vote négatif au référendum de septembre 2014. Alors la personnalité de Jeremy Corbyn est très contestée, ses choix le sont aussi, il est issu de l'aile gauche du parti, il est réputé clivant, il est maladroit dans ses déclarations à l'emporte-pièce, c'est un pacifiste anti-nucléaire, anti-atlantiste, anti-monarchiste, écologiste intransigeant, et donc on va voir quelles sont les conséquences à la fois sur les bords et sur la vie politique britannique. En tout cas, il est évident que c'était une élection surprise, celle de Jeremy Corbyn, à la mi-septembre, Emmanuel Avril.
Alors, ça a vraiment créé la surprise, comme vous le savez, en Grande-Bretagne, au Parti travailliste et dans le monde entier. C'est une sorte d'accident qui est le résultat de changements dans la procédure d'élection du leader, des changements qui avaient été adoptés l'année précédente, en mars 2014. Et donc, le résultat de ces changements, c'est que ça a donné la possibilité à un outsider de monter et construire un mouvement qui l'a porté à la tête du Parti travailliste.
C'était une surprise aussi pour le Parti travailliste lui-même.
Pour le Parti travailliste et pour Corbyn. Corbyn a été un petit peu forcé de se présenter. Aucun autre candidat de la gauche n'avait vraiment envie d'y aller. Et donc, il a été un petit peu forcé de le faire. C'est pas quelqu'un qui aime être sur le devant de la scène habituellement. Donc, ça l'a pris lui aussi de surprise et le Parti travailliste est encore sous le choc.
Alors, il faut parler quand même de sa personnalité, parce que quand on écoute ou quand on regarde ses déclarations, on a l'impression qu'il est souvent très à l'emporte-pièce, très entier, très clivant, et souvent il se braque d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'intègre pas forcément rapidement la contradiction.
Alors disons qu'il y a ses qualités personnelles, ses caractéristiques personnelles qui sont d'être authentique, d'être très humble, il est végétarien, il se déplace en vélo, il ne boit pas, etc. Mais évidemment, d'un autre côté, il a des positions très très nettes. D'ailleurs, c'est ce que ses sympathisants apprécient, c'est qu'il n'a pas changé de position depuis 20 ans. Il a toujours les mêmes opinions, en particulier donc son pacifisme. Et il y a un certain nombre de sujets, comme sur la défense et le système de défense nucléaire Trident, sur lesquels il ne veut pas composer.
C'est ça, c'est le système donc des sous-marins nucléaires. Alors on dit qu'il est anti-monarchiste, anti-pacifiste bien sûr, anti-nucléaire, anti-dissuasion nucléaire, ça va avec. Et d'autre part, c'est un vieux militant, donc de, je crois, ce programme s'appelle « Stop the War ».
Oui, the Stop the War Coalition, oui. Alors, mais ça, c'est une coalition qui va bien au-delà, évidemment, du Parti travailliste. C'est une coalition qui s'est créée au moment de l'intervention militaire britannique en Irak. Donc, il y a un historique. C'est aussi lié à des choses plus anciennes, comme la campagne pour le désarmement nucléaire. Donc, il fait partie de cette mouvance pacifiste, donc actuellement contre les frappes en Syrie, par exemple, qui ont provoqué beaucoup de controverses, puisque son ministre fantôme des Affaires étrangères, lui, était en faveur des frappes et a parlé en faveur.
Oui, alors j'ai vu qu'il y avait plein de points de vue contradictoires qui s'exprimaient au sein du cabinet fantôme, et M. Corbyn, d'ailleurs, a réformé, a amendé son cabinet fantôme il y a quelques jours, au début du mois de janvier.
Oui.
Et dans un sens plus, comment dire, avec plus de cohésion.
Il a essayé d'introduire plus de cohésion. Ça, c'est un peu normal. Enfin, c'est donc un remaniement ministériel qui a d'ailleurs été très très long. Ça a mis 34 heures pour l'effectuer. Il a remercié deux membres de son cabinet, mais il a écarté ou déplacé au poste de la culture Maria Eagle, qui était pro-Trident, mais il a été un petit peu obligé de garder Hilary Benn, donc aux affaires étrangères, qui lui est plutôt pro-Trident et pro-frappe en Syrie. Donc il essaye de créer plus de cohésion. En même temps, on lui reproche d'être un petit peu trop brutal. Et il y a eu ce remaniement a d'ailleurs provoqué la démission de 4 membres du cabinet.
Alors, une chose intéressante, Emmanuel Lavril, et je rappelle que vous êtes professeur de civilisation britannique à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, c'est qu'on se dit, au fond, vu de l'extérieur, pour l'instant, il divise le parti.
Bien sûr, oui, il y a une division. La division, elle a toujours existé. Il y a toujours eu une aile gauche et une aile droite au Parti travailliste. Il se trouve que pendant une longue période, c'est plutôt l'aile droite avec New Labour et Tony Blair qui a dominé. Il y a eu une période antérieure à ça où c'est l'aile gauche qui avait dominé au début des années 80, ce qui avait d'ailleurs provoqué une scission. Donc là, on est dans un cas de figure qui ressemble à des choses qu'on connaît déjà, mais on ne sait absolument pas où ça va conduire. Et il y a éventuellement un risque de scission, mais l'aile droite, n'ayant pas vraiment obtenu de bons scores, la candidate qui était l'héritière New Labour a obtenu moins de 5% des voix des adhérents. Donc, ils n'ont pas vraiment une base pour pouvoir créer un autre parti ou faire scission et espérer comme ça pouvoir redémarrer et se séparer de Corbyn.
Alors, il y a aussi la question, j'ai vu, est-ce que c'est important pour vous dans l'analyse, au moins pour l'année en cours, il y a des élections locales qui ont lieu. Vous m'avez dit au mois de mai, c'est intéressant pour la vie du parti, peut-être pour la vie politique britannique dans son ensemble.
Bien sûr, puisque, alors là, on ne peut pas comparer les résultats dans des élections de premier ordre et de second ordre, mais ça va quand même donner une indication de l'état de l'opinion. Pour l'instant, les sondages indiquent que Corbyn est très très impopulaire auprès de l'électorat en général. On va voir s'il y a un changement, s'il y a un effet de contagion. Il y a quand même 500 000 maintenant d'adhérents travaillistes. Donc voir s'il y a un effet de contagion vers les sympathisants travaillistes. Donc oui, en effet, ça sera un test. On pourra voir si les candidats plutôt pro-Corbyn obtiennent de bons scores ou au contraire sont relégués en troisième ou quatrième position. Donc c'est très important, on l'attend sur ce point.
Ah oui, c'est un rapport d'étape, on va dire.
Tout à fait.
Les élections, donc les législatives, ont lieu normalement donc en 2020. Il n'y a pas le feu de toute façon pour le Parti travailliste.
De toute façon, les élections maintenant sont à terme fixe, enfin sont définies.
Oui, parce que généralement, d'habitude, elles étaient toujours anticipées.
Ça a été changé en 2010. Le gouvernement de coalition a justement changé la loi et introduit des parlements fixes de manière à ne pas devoir partir avant la fin de leur temps. Donc maintenant, on reconnaît la date des élections à l'avance.
Parce que l'avantage des élections anticipées, c'est qu'on prend de court l'opposition puisqu'on décide du bon moment.
Voilà, mais c'est plus possible. Maintenant, on connaît la date d'avance. Ça sera 2020 de toute façon. Enfin, sauf, il y a des circonstances exceptionnelles qui peuvent permettre la tenue d'élections anticipées. Mais normalement, c'est en 2020.
Et juste d'un mot, Emmanuel Avril, la clientèle géographique du Parti travailliste ou sociologique.
Alors, je lisais une enquête à ce sujet récemment. Le soutien à Corbyn se trouve essentiellement dans les villes, et les villes universitaires, en particulier chez les jeunes. Donc, c'est peut-être un reflet de cette idée, de ce message anti-austérité, porteur d'espoir éventuellement vers des électeurs qui ne votaient pas auparavant.
Et les jeunes votent ? Les
jeunes ont tendance à ne pas voter et donc on voit qu'une partie des nouveaux adhérents aux travaillistes sont des gens qui ne votaient pas auparavant.
Voilà, donc Emmanuel Avril, professeur à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. On va revenir d'ailleurs dans les prochaines semaines sur le projet de référendum sur le maintien ou non dans l'Union européenne. Franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Puis Guillaume, demain, fin évidemment du voyage du président français en Inde. On va parler des relations entre les deux pays et des relations entre l'Inde et l'Europe d'une façon générale avec Jean-Joseph Boileau qui est conseiller du club du CEPI.
Merci beaucoup Thierry Garcin. À demain.